Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot. Dans 24 heures maintenant, on connaîtra la composition des poules de la Ligue des Champions. Le tirage au sort, c'est demain en Suisse. Une nouvelle campagne européenne pour la succession du Bayern de Munich et un PSG qui sera très attendu pour la confirmation ou pas de son parcours de l'été dernier dans le fameux Final 8. À nos côtés pour parler de ce sujet dans ce studio numéro 1, Franck Simon de France Football. Bonjour Franck.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
France Football qui réussit le doublé aujourd'hui puisque Nabil Djellit est là-haut également. Bonjour Nabil.
Bonjour, bonjour à tous.
Et puis Eric Rabé-Sandratana qui est avec nous également. Bonjour Eric.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Ils ont l'air très sages mais ils sont un peu dissipés.
Ouais, très dissipés. Oui.
Personne n'a de boule de cristal mais on essaiera quand même de voir ce qui peut sortir de ce tirage de demain. Un tirage en marge duquel Didier Drogba sera fêté. Il recevra le prix du président de l'UEFA, une distinction européenne qui est remise pour la première fois à un monde européen. Au sommaire également, les gardiens sénégalais, Gomis qui signe à Rennes, Mendy qui débute à Chelsea, on en parle dans Radio Foot, de même que le cas Adama Traoré, appelé par les sélections de l'Espagne et du Mali en même temps, une drôle de situation. Au milieu de ce sommaire, un sujet caché, une surprise qui vous attend, un anniversaire à fêter, le souvenir d'un grand événement, je ne vous en dis pas plus, soyez à l'écoute. Radio Foot, préparé avec le Réfé, avec Pierre Guérin et avec Alice Ménard, nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel. Et oui, nous sommes à la veille du tirage au sort de la Ligue des Champions, un peu plus d'un mois après la finale de Lisbonne et la victoire du Bayern. Nous allons basculer sur une nouvelle saison européenne avec une phase de poule plus concentrée dans le temps, plus resserrée. Les 6 journées s'échelonneront du 20 octobre au 9 décembre. Demain donc, 32 clubs seront répartis en 8 poules de 4. On connaîtra d'ailleurs les derniers qualifiés ce mercredi soir. Et le PSG, on va commencer par lui, puisqu'il sera dans le chapeau 1. Est-ce que, messieurs, ce statut de finaliste de la dernière édition change quelque chose par rapport à ce tirage, par rapport à l'approche que les adversaires peuvent avoir du Paris Saint-Germain, Eric?
Je ne sais pas si ça change quelque chose. En tout cas, ça peut peut-être un peu plus motiver, j'allais dire, le Paris Saint-Germain. Quand on arrive en finale, on a envie de la gagner, forcément. Donc, quand tu fais l'exploit d'arriver en finale, t'as envie de refaire la même chose pour la saison d'après. Donc, je pense que ça peut rester dans les coins des têtes, dans le coin des têtes. Mais, moi, je pense que ça va être surtout conditionné sur le recrutement qui va arriver dans les 5 prochains jours. Parce que ça m'inquiète vraiment du côté du PSG par rapport à cette Ligue des Champions. Savoir qui va arriver pour faire passer un cap à cette équipe du Paris Saint-Germain.
Ouais, donc pour vous, cette phase de poule, là, les adversaires, c'est pas un problème pour le PSG.
C'est pas un problème, mais non. Enfin, ça dépend quel tirage. Je me souviens
que. Je crois pas trop, quoi.
Si vous avez un tirage compliqué comme
il y a du monde, un ami, tu as vu.
Liverpool, Naples, Paris Saint-Germain, c'était pas si simple que ça. Si vous tombez sur une équipe de chapeau 3 ou 4 qui est dans une bonne dynamique avec un excellent collectif, on sait que le Paris Saint-Germain...
T'as l'Atalanta, pour 3.
Qui peut être mis en difficulté par des bons collectifs. Mais moi, ce que je pense, c'est que... Bon, ce qui est intéressant du côté du Paris Saint-Germain, on va dire, c'est que on se posera peut-être moins cette question de plafond de verre. Vous savez, souvent, ils sont échoués en quart de finale ou en huitième de finale. En revanche, et c'est là où je rejoins Eric, moi, mes interrogations pour le Paris Saint-Germain, c'est plus la superstition de savoir s'ils peuvent arriver en finale ou pas. C'est quel fond de jeu. Parce que, comme tout le monde, on a vu ce Paris Saint-Germain en Ligue des Champions s'appuyer essentiellement sur 2 individualités.
C'est
et je
clair.
Pense que les entraîneurs des autres équipes l'ont vu également.
Ouais, alors j'ai l'impression que Franck s'est livré au
j'ai
petit
fait mes
jeu
devoirs.
Des pronos.
Ouais. Ouais, j'ai fait mes devoirs.
La Guinée équatoriale,
on a pas fait nos devoirs.
Vous avez déjà le groupe du PSG, c'est
il
ça.
Le groupe
non,
de la Guinée
c'est pas ça, j'ai regardé tout simplement et effectivement le PSG évite les gros porteurs Bayern, Liverpool, Real Madrid, Juventus, c'est un peu normal puisqu'ils sont avec. Ouais. Ils peuvent pas tomber
c'est
sur
pas
un
la
club.
La première fois que ça leur arrive
non.
Avec eux.
Non, c'est vrai. Ils évitent aussi les clubs français puisque tu peux pas jouer contre un club de ta propre association, ta propre fédération. Dommage. En revanche, Pau 2, t'as quand même le Barça, t'as l'Atlético Madrid, les deux Manchester, t'as Dortmund,
costaud,
Chelsea,
ouais.
Ajax. Pau 3, on se dit, on s'éloigne un peu du danger. Pas du tout. Inter de Milan, Rasenball Sport de Leipzig, la Lazio et l'Atalanta.
Ouais.
Donc, ça veut dire que
C'est vrai que c'est pas mal.
Potentiellement, tu vas tomber forcément.
Pro 4, alors, Franck, faites-nous rêver.
Bruges, le club Bruges, Mönchengladbach.
Qui est Pro 4.
Oh, mince.
Non, c'est le Pro 4, il est à leur portée.
Ferencváros, j'imagine.
Ouais, des clubs comme ça, voilà. Mais Pro 2 et Pro 3, tu peux t'attendre à avoir un gros porteur, quand même.
Alors, on s'est un petit peu amusé, quand même, avec leur effet en préparant l'émission. Le groupe qui serait pas forcément bien accueilli pour le Paris Saint-Germain, ça pourrait être Barcelone, qui est dans le chapeau 2, l'Inter de Milan, qui est dans le chapeau 3,
surtout en ce moment,
et Mönchengladbach, qui est dans le chapeau 4.
Pas mal.
Ça pourrait être sympa.
C'est une poule de la mort.
Ça serait sympa, mais ouais, ça laisserait.
Et c'est tout à fait possible.
Bah oui.
Et c'est tout à fait possible. Mais ils sont pas encore à 100%. Donc quand tu vas commencer tes matchs là, il faut que tu sois un petit peu à 100%. C'est pas le cas pour l'instant.
Et puis ces effectifs-là, il y a des effectifs qui sont déjà quasiment complets, opérationnels, peut-être pas celui du FC Barcelone, mais Eric il a raison, ils ont perdu Bernat en cours de route, qui était quand même le latéral gauche titulaire, on en pense qu'on veut, mais il a fait le job.
T'as des suspensions.
Depuis qu'il est venu, au milieu de terrain, on attend toujours des solutions et des solutions premium, pas certains noms qu'on entend actuellement, qui sont peut-être pas à la hauteur.
Ça c'est affolant.
Ce qui est affolant, c'est l'Atlético Madrid, plus que le Barça.
Et l'Atlético, et donc le Paris Saint-Germain, ils ont quand même résolu en grande partie quand même cette histoire de gardien, donc on posera pas cette année. On posera plus cette question, est-ce qu'ils ont trouvé un gardien ou pas, on
ça,
sait,
vrai, oui.
Mais à d'autres postes ils se sont dépeuplés et c'est une certitude, et en plus c'est un club qui financièrement, même s'il est puissant, il est contraint par le fair play financier, cherche à recruter malin aujourd'hui.
Ouais, ils sont obligés de lâcher des joueurs et de descendre un peu la masse salariale pour aller recruter, donc c'est quand même une situation qui n'est pas habituelle pour le Paris Saint-Germain. Il te manque un joueur au milieu de terrain, un joueur devant parce que Cavani il est parti, il te manque un défenseur, donc il te manque à peu près 4 joueurs importants de ton effectif. Il te reste 5 jours.
C'est
chaud.
Compliqué.
Ce qui peut faciliter les choses, c'est une poule avec par exemple le Shakhtar Donetsk, l'Olympiakos et Ferencváros.
Là, c'est
des vacances.
Là, on signe.
Là, c'est une poule Europa League, si je puis me permettre.
C'est vrai.
Avec le Shakhtar.
C'est une poule au pot. Ouais. Un petit peu, non? Avec du pot, quoi. De la chance.
Bon, voilà pour le PSG. On verra ça demain. Il y a
Lyon et Marseille également.
Évidemment, deux autres qualifiés. Lyon et Marseille, vous avez dit?
Rennes peut-être.
Rennes et Marseille. C'est bien.
Tu chambres,
dans l'imaginaire. Voilà. Comment c'est ancré, mais c'est intéressant.
Je crois que tu parlais de foot féminin, Nabil. J'étais surpris.
Là, c'est marrant.
Ouais. Il va falloir changer les repères parce que Rennes.
Exactement.
Alors, Stade Rennais, évidemment, est l'un des qualifiés, des trois qualifiés, qui sera dans le chapeau 4, ça c'est sûr. Le Stade Rennais, Marseille, probablement chapeau 4 aussi. Ça dépendra des résultats de ce mercredi soir. Donc pour les deux, en fait, gros tirage à prévoir, voire tirage pas clément du tout, quoi.
Marseille, ils connaissent ça.
C'est pas réellement une surprise. Pour Rennes, par contre, voilà, c'est une belle aventure. Ils ont bien commencé le championnat, donc ça peut être, on leur souhaite une bonne chose.
Ça peut être aussi embêtant
parce que les deux compétitions ensemble, quand t'as pas l'habitude de gérer, tu peux te retrouver vite en difficulté en championnat. Donc,
Est-ce qu'ils ont l'effectif à Rennes pour sortir d'une poule comme ça, un petit peu costaud? Pas sûr, hein.
Pas sûr.
Ils ont en tout cas un public qui.
Un public.
S'il est admis au cours de cette Ligue des Champions, a vécu quand même des chaudes soirées européennes avec la Ligue Europa, notamment il y a deux saisons.
Le public c'est bien, l'ambiance, l'environnement, c'est que les Rennais sont passionnés, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est une équipe qui, on a l'impression qu'il y a eu un déclic quand même psychologique, et qui est maintenant, je dirais pas bardée de certitudes, mais qui apporte certaines garanties, qui a un recrutement intelligent, qui est cohérente, et ça c'est, je pense, le meilleur assurance vie, entre guillemets, pour le Stade Rennais lors de cette Ligue des Champions. Si moi demain vous m'apprenez que...
Tu me surprends là de dire ça.
Tu les vois
pour
pas toi?
Pour la Ligue des Champions.
Je les vois pas gagner la Ligue des Champions, évidemment. En revanche, ils ont un entraîneur qui a des idées, qui travaille plutôt bien. Si demain Rennes finit deuxième de sa poule ou troisième, pour moi, ce serait pas une surprise, ce serait pas un truc surréaliste. Chaque saison en Ligue des Champions, vous avez des équipes, l'Atalanta, on les avait pas vu venir. Vous avez des équipes comme ça, bien pensées, bien construites, avec un état d'esprit, qui peuvent venir matcher. Il suffit qu'ils soient dans une poule avec deux gros et qu'il y ait un des deux gros qui est malade, entre guillemets,
ça arrive. Ou qui s'annule avec un autre gros.
Voilà, j'ai plus ce pressentiment-là, mon cher Christophe, pour Rennes. que pour l'Olympique de Marseille, ouais, par exemple.
Un cristal. Alors, attention,
tout le monde
parce
peut
que...
être malade. Ouais. J'y crois pas. Je vous le dis honnêtement.
Mais Rennes peut très bien tomber dans un groupe où il y aurait le Bayern, ou le Real, ou Liverpool.
Trois fois rien, Christophe. Hein.
Voilà. Oui, mais il reste une troisième place, on va dire.
Et il y aurait également comme possibilité Manchester City, ou encore le RB Leipzig. Donc là, imaginez que Rennes puisse finir à la troisième ou la deuxième place, ça serait.
Mais on verra ce qui est, on verra. De toute façon, c'est, je vais dire.
J'allais dire, ça va
sinon, rester. Sinon, tu joues pas, quoi.
J'allais dire, ça va rester une expérience, en fait. C'est-à-dire qu'au pire, ça passe pas, bah, ça va rester une bonne expérience. Ils ont déjà eu une bonne expérience en Ligue Europa. Et là, maintenant, ça serait le cas en. Voilà, ils auront passé déjà un cap par rapport à ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant. Et ça pourra leur servir pour la suite. Hein. Là, aujourd'hui, ils sont premiers du championnat.
Exactement.
C'est quand même magnifique. Faire Ligue 1, Ligue des Champions, Ligue 1, Ligue des Champions.
Et c'est plus dur.
Est-ce qu'on a le droit de parler de l'OM ou pas?
Bien sûr.
Parce que pour eux, c'est la configuration idéale. Surtout pour Dimitri Payet, peut-être, parce qu'il va falloir peut-être pas courir tant que ça. Parce que l'OM, dans ce type de configuration, va faire comme Lyon, va être en bloc bas, mettre de l'intensité, se projeter. De temps en temps, je les vois pas faire le jeu, ils le font pas déjà en Ligue 1. Là, c'est des configurations qui peuvent mettre, un peu comme Lyon en Ligue des Champions, mais à une autre échelle, mettre en valeur ce que sait faire Villas-Boas, c'est-à-dire une équipe hargneuse, avec un état d'esprit, et être efficace dans les deux surfaces. Ils le sont avec Mandanda. Mmh. Et s'ils ont trois occasions, on les a déjà vus faire en Ligue 1 la saison dernière. Mais toi,
voilà. Villas-Boas, pour le coup, connaît la compétition, il maîtrise les paramètres propres à la Ligue des Champions. Donc.
Après, la frustration pour l'OM, elle est énorme, soyons sincères. Avec leur public, s'ils avaient eu des stades combles, un stade en configuration pré-Covid, entre guillemets, pour l'Olympique de Marseille,
enfin, le public le monde, Nabil,
est un atout beaucoup plus important que certaines autres équipes. Je veux dire, le Paris Saint-Germain, qu'ils aient 15 000...
Le coefficient public est plus important pour l'OM.
Bah, quand vous êtes moyen, le coefficient public... Quand t'es moyen, le coefficient public, il compte à domicile.
C'est un soutien supplémentaire, c'est vrai, quand même. Si ça peut jouer. Maintenant... Ça n'enlève rien aux qualités sur le terrain et à l'heure actuelle... Les qualités qu'il n'y a pas sur le terrain.
Eric, souviens-toi d'il y a quelques saisons, l'OM en Ligue des Champions, 0 point. Et ils avaient le coefficient public.
Il y avait une grosse poule.
C'était une bonne poule, mais c'était pas une super grosse poule.
De toute façon, le défi pour l'OM, c'est d'éviter le zéro point, parce qu'ils sont attendus au virage un peu par tout le monde à ce niveau-là, quoi.
Bon, je retiens que vous êtes plutôt optimiste, globalement, pour l'Olympique de Marseille, à la veille de ce tirage.
Globalement,
on en reparle.
De Nabil, pas moi.
Oui.
Toi, t'es optimiste, Franck?
Ah, pas du tout.
Mais moi, je le suis pas non plus. On l'a bien compris, non?
Pas sûr. Hein.
Ils ont un attaquant brésilien de 18 ans, apparemment, c'est un phénomène. Ouais. Alors,
un cadeau. Ouais.
On va le voir à l'œuvre. On va saluer en attendant une légende du foot africain nommé Didier Drogba, qui sera lui aussi présent à ce tirage au sort. Et surtout dans l'idée de recevoir donc ce prix du président de l'UEFA. Ça se fera donc en marge du tirage. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le prix du président de l'UEFA? Vous connaissiez ce prix, Franck?
Absolument pas, Christophe.
Bon.
J'attends vos explications et je suis tout oui.
Alors, selon le site de l'UEFA, il est décerné en reconnaissance d'événements exceptionnels, de l'excellence professionnelle et de qualité personnelle exemplaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Didier Drogba, parce que ce prix existe depuis 1998,
tout de même,
est le premier non-européen à recevoir cette distinction qui est remise par une confédération européenne.
Symbolique forte, donc.
Oui.
Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Et alors, quels sont les noms prestigieux qui se sont succédés?
Alors, dans ce prix du président de l'UEFA, donc, il y a Eusebio.
Oui, okay. Oui, tout de même.
Raymond Coppa.
Oui, des ballons, oui, bah, ballons d'or.
Des grands joueurs.
David Beckham.
Pour sa coupe de cheveux.
Le Spice Boy.
Non, le dernier en date, c'était Eric Cantona, l'année dernière, en 2019.
Oui, effectivement, je me souviens des images. Ouais, ouais.
En fait, ce prix.
Alors,
la vocation de ce prix du président de l'UEFA a évolué un peu depuis sa création en 98. Le premier lauréat, c'était Jacques Delors en 1998.
Ah oui.
Vous ouvrez de grands yeux.
Ah, oui.
Rien à voir avec Andy. Rien à voir avec Andy.
Non.
Tout de suite, il ramène ça à l'Algérie.
Vous avez vu. On n'a pas.
Il va rattraper. Le Fennec est de retour.
N'attendez pas celle-là. On n'a pas eu le temps de reconstituer pourquoi Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, il a dirigé la Commission européenne pendant 10 ans, Jacques Delors, avait obtenu ce prix en 1998. Ensuite, donc, on trouve des gens très variés, Giroud, toujours sous la présidence de Lennart Johansson, Giroud, Paolo Maldini, Franck Rijkaard, bon. Et puis Platini devient président de l'UEFA.
Mais c'est décidé autour d'un repas, là, alors
Je sais pas, c'est quand même extraordinaire.
Et quand Platini devient président de l'UEFA, on retrouve des gloires du passé, et d'un passé assez lointain, puisque là, je vous citais Eusebio, il y avait Gianni Rivera, Franz Beckenbauer en 2012, qu'il a eu, ensuite Cruyff.
Et des joueurs, quoi, déjà.
Voilà, des joueurs. Et puis alors, changement
Giroud, j'aime beaucoup Giroud, mais...
Changement d'orientation encore. Quand Seferin arrive en 2016, là, on récompense des gloires plus récentes, comme donc... Bah, il y en a eu 4, hein, simplement, depuis que Seferin est président. C'est Totti, Beckham, Cantona, et le quatrième, donc, c'est Drogba.
Ouais, ce sont quand même des joueurs qui ont marqué l'histoire toute récente des 20 dernières années en Ligue des Champions. Donc, ça peut parfaitement se comprendre. Et c'est vrai que pour, en l'occurrence, pour Didier Drogba, effectivement, bah, il y a une symbolique forte.
Voilà,
c'est une symbolique forte.
Ça se comprend.
Donc, ça se comprend pour ce qu'il a pu aussi apporter en une grosse douzaine de saisons passées en Europe, quoi, entre Chelsea, il y a eu Galatasaray aussi, il y a eu des parcours avec Marseille, où il s'était fait, c'est là où il s'est fait quand même remarquer contre Porto. Donc ouais, bon, c'est plutôt bien. Ça vient, c'est un prix supplémentaire, même si je pense que aujourd'hui il rêve d'autres. Ouais, il a sans doute d'autres ambitions que le prix européen. Voilà. Ouais.
Ouais, c'est plutôt bien dû pour lui dans le contexte de la course à la présidence de la fédération.
C'est un message politique.
Ça tombe bien.
C'est un message politique qui lui donne encore plus de légitimité. Je crois que crédit,
en,
il en a.
Mais j'allais dire, tu crois que c'est en rapport avec
Moi, je pense qu'il derrière, il y a toujours.
C'est pas une orientation.
Je pense que c'est pas. Non, mais à la limite, après, c'est aussi un.
Bah, il mérite
aussi.
Il y a rien de.
Non, mais on réduit pas évidemment Didier Drogba à ça.
On aurait pu le donner à Georges Weah aussi. Georges Weah m'a aussi brillé. Mais bon, voilà.
En tout cas, Didier Drogba reçoit ce prix demain des mains d'Alexander Seferin, qui a été très élogieux. Il a dit que Didier était un héros aux yeux de millions de fans pour ses exploits tout au long de sa brillante carrière de joueur. C'est un leader, un pionnier. Il m'a marqué par son talent, sa force, son intelligence, mais surtout pour son appétit insatiable de réussite. Que voilà pour le prix du président de l'UEFA.
C'est quand même un bel élan pour t'envoyer à la présidence.
Message
de,
très
de...
Pro,
ouais.
Pro,
ouais. C'est un beau soutien.
Message très politique.
C'est un soutien, voilà.
Très politique le message, voilà. On l'a bien compris.
Voilà, mais bon, après c'est pas un scandale.
Voilà, Didier Drogba, demain à Genève pour recevoir ce prix. Et on va ouvrir tout de suite la boîte à souvenirs dans ce Radio Foot. On va retourner 20 ans en arrière. Nous sommes le 30 septembre 2000 à Sydney, aux Jeux Olympiques. Il est 14h36 en heure locale. Et dans cette finale du tournoi de football, le Cameroun et l'Espagne en sont au tir au but.
Il s'élance, c'est parti, et ça y est, le Cameroun est champion olympique de football grâce à ce tir au but de Pierre Ouamelade.
Jean-François Pérez en direct sur RFI pour annoncer aux Camerounais, à l'époque, qui ne dormaient pas, hein, malgré l'heure tardive, ni à Douala, ni à Yaoundé, ni ailleurs, pour leur annoncer donc que les Lions sont champions olympiques. Bonjour Patrick Boma.
Bonjour à vous.
Merci d'être en ligne avec nous pour évoquer ce beau souvenir. Joyeux anniversaire au passage d'ailleurs.
Ouais, salut Mathieu.
Merci, ça fait 20 ans.
Vous en avez quelques-uns à fêter hein, cette année 2020 qui vous renvoie à cette année 2000 qui a été si riche. Alors ce matin sur les réseaux sociaux, vous avez ressorti une photo, de vous, une belle photo. Hein, elle a plu à Eric Rabessandratana.
Oui.
De vous.
Salut Pat. Un rappel sur les abdos d'antan.
Ah, magnifique. Non, elle est belle cette photo.
On vous voit effectivement avec la médaille d'or autour du cou. Et dans vos messages, vous parliez de votre fierté. C'est tellement particulier de gagner le titre olympique dans une carrière.
Oui, complètement. Dans une carrière, je pense pas. En tout cas, je ne pense pas que quand on démarre une carrière de footballeur professionnel, on ait ça comme objectif, on pense à ça. Moi, j'y ai pensé à partir de mars-avril, quand les jeunes, parce que c'était 23 ans, se sont qualifiés. J'ai pensé à participer aux Jeux Olympiques, mais certainement pas à les gagner. Et les choses se sont construites avec un soupçon de chance, de réussite. Mais on a réussi à, comme le Nigeria 4 ans plus tôt, à faire un exploit monstrueux.
Ouais, vous aviez, alors en fait, vous faisiez partie des joueurs de plus de 23 ans hein, à l'époque.
Oui.
Il y avait le règlement qui autorisait déjà, je crois que c'était 3 joueurs de plus de 23
ouais.
ans. Vous, à l'époque, vous en aviez 29.
29.
Et on va revenir un peu sur ce parcours, mais d'abord cette finale contre l'Espagne qui se termine. Alors rafraîchissez-nous la mémoire. 5 tirs au but à 3, mais deux partout à la fin de la prolongation après que vous ayez été mené 2-0. Hein.
On a été mené sur un coup franc de Xavi, je cite son nom parce que
Xavi,
ça parle, à la deuxième minute. Ensuite, Cambini arrête un pénalty d'Angulo, ça parle aussi à certains, à peu près au quart d'heure de jeu. À la 44e, je crois que c'est Gabri qui marque pour l'Espagne, et là, ça nous plombe parce que c'est en début de match et juste avant la mi-temps. Donc c'est très difficile à absorber comme réalité. Mais on a réussi à le faire et en à peu près un quart d'heure, on est revenu au score. Ce qui est très bizarre, c'est qu'ensuite on ait dominé le match parce que l'Espagne s'est retrouvée d'abord fatiguée, ensuite à 10, puis à 9. Et on a eu peur d'attaquer, on a eu peur de profiter de cet avantage parce que deux matchs plus tôt, à savoir en quart de finale contre le Brésil, on avait aussi évolué à 9 et réussi à marquer au but en or. Donc on avait un peu peur de ça et on a dû avoir recours aux pénaltys dans lesquels on était très confiants parce qu'on avait en Carlos Cameni, même s'il était très jeune, 16 ans, un spécialiste de la discipline.
Je me tourne vers Franck Simon. Franck, vous avez des grands souvenirs de cette finale, des beaux souvenirs. C'était en plein midi à l'heure de Sydney. Hein, c'est pas banal, une finale olympique à midi. Et il y avait 100 000 spectateurs autour.
Ouais,
104 000. Ouais.
Je suis allé 15 ans après, je suis allé à Sydney. Ouais. C'était pendant la Coupe d'Afrique 2015. Moi, j'étais allé voir quelques matchs en Coupe d'Asie des Nations. C'était en Australie donc. Et donc j'ai pu voir tout ce que représentait le village olympique, ce fameux stade. J'ai imaginé ce que c'était parce que le stade était vide à ce moment-là quasiment. Et je pense que ça avait été un truc assez incroyable. C'était une très très belle équipe que celle dont parlait Magic à propos de cette finale. Tout le parcours, ça a été vraiment à l'énergie. Hein. Il n'y a pas de match où ils se sont baladés. Ils ont été super réguliers. Il y a eu des moments compliqués. Le quart de finale contre le Brésil où je crois que Jérémy a été expulsé. Il s'impose après prolongation. Pat Magic a marqué. Je crois que Modeste Mami avait marqué aussi. Il y avait Ronaldinho en face.
Oui.
Ouais, c'est quand même pas rien.
Vous voyez le casting un peu quand même. Hein. Boma, Eto, Ronaldinho.
Ouais, Jérémy,
il y avait Zamorano aussi.
Ouais,
Zamorano.
Zamorano,
avec
Chilien,
le Chili.
Absolument. Mm-hmm. Non, il y avait une très très belle équipe, mais c'est des garçons. Il y en a 6. Dont Patrick, qui avait remporté quelques mois plus tôt
la Coupe
6, je crois, un Bekono, Mourmet, Jérémy, Eto, toi et Lorraine. Non, ça fait 6, je crois.
Non, il n'y en a que 5.
Ah bon? Ah, donc les statistiques officielles sont fausses.
Il va falloir refaire le pointage.
T'es bancal, là. T'es Lorraine bancal, là.
Alors, à l'époque, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre entraîneur, Patrick Boma, votre sélectionneur, c'était Jean-Paul Aconeau.
Non, c'était Pierre Lechantre. Mais c'était Jean-Paul Aconeau qui dirigeait l'équipe
aux Jeux Olympiques.
Oui.
Aux Jeux Olympiques. Et on va l'écouter, Jean-Paul Aconeau, évoquer la fierté de gagner cette médaille d'or olympique.
Vous n'avez pas l'impression que c'est vous. Vous n'avez pas l'impression que c'est le Cameroun qui se retrouve aussi grand. C'est des moments d'une intensité émotionnelle qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer. Ce que ces footballeurs de cette époque-là, les Eto, les Mboma, les Tamé Maier, les Ndjita, Bouomé, Anouldji, Kono, Kameni, et j'en oublie que cela me pardonne, vraiment, ce qu'ils ont fait pour le Cameroun, c'était formidable. Parce que être champion olympique, ça, c'est des moments vraiment irremplaçables dans la vie de quelqu'un.
Vous reprendriez ces mots à votre compte, Patrick Mboma?
Le côté exceptionnel, oui, c'est vraiment une victoire exceptionnelle, beaucoup d'honneur, beaucoup de joie que l'on transmet, que l'on prend d'abord nous-mêmes. Et le témoignage de cela, c'est que ça fait 20 ans que je répète la fierté que j'ai eue d'entonner l'hymne du Cameroun aux Jeux Olympiques, en me remémorant que c'était la première fois qu'il sonnait dans cette compétition. Donc c'est vraiment particulier et il y a beaucoup d'émotions qui nous traversent et chacun saura les transmettre ou en parler. Mais c'est vrai que je me reconnais dans ce que dit le coach Akolo.
Ouais, et c'est vrai que c'était la toute première. Il y a eu d'autres titres olympiques après. Ça venait de l'athlétisme avec Françoise Bango, ouais, qui a été deux fois championne olympique en 2004 et en 2008 au triple saut. Alors, les Jeux de Sydney, Patrick Mboma, passent pour des Jeux vraiment magnifiques. Hein. Certains disent que c'était, ouais, peut-être les plus beaux Jeux de l'histoire. Vous avez eu la sensation de vivre une Olympiade, c'est pas le bon mot, des Jeux olympiques particuliers?
Bah, c'est particulier parce que c'est les Jeux Olympiques, tout simplement, ça suffit à tout dire. La chance que nous avons eue, et toutes les équipes ne l'ont pas eue, c'est d'avoir joué à Sydney. Il a fallu pour ça attendre la finale. Et ce n'était que grâce à ça que nous avons eu la possibilité de séjourner 3 jours au village olympique. Et là, le village olympique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le mélange de tous les athlètes, de tous les pays. Personne ne se prend pour un héros, alors qu'il y a beaucoup d'héros existants et en devenir. Et tout le monde est plutôt simple, on partage avec tout le monde, des judokas, des basketteurs, tout ce que l'on veut, lorsqu'on se déplace pour aller manger, lorsqu'on se déplace dans le village avec nos accréditations, on regarde un groupe ou un survêtement et puis on va converser. C'est humainement, c'est une aventure extraordinaire. Donc, on aurait pu me mettre ça en 96, en 80 ou en 76, j'aurais dit que c'était exceptionnel de toute façon. Mais c'est vrai. C'est vrai que les Jeux Olympiques de Sydney, je les ai vraiment ressentis comme étant particulièrement réussis.
Éric Ravaille-Sandratana, vous écoutez avec beaucoup d'attention.
Ouais, parce que
une lumière au fond des yeux, j'ai l'impression.
Non, mais j'imagine bien que le mélange des athlètes, c'est toujours très enrichissant pour d'abord un athlète de croiser d'autres athlètes de d'autres disciplines, c'est vraiment enrichissant. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller justement voir les athlètes dans leur compétition, ou est-ce que c'était simplement le village? T'as vu les...
Non, c'était uniquement le village, parce qu'il faut comprendre que toutes les compétitions de toutes les disciplines, surtout dans la ville même de Sydney, faisaient le plein. Il faut aussi comprendre qu'on était là pendant quelques rares heures. Mmh. Donc entre la récupération, les séances d'entraînement et la préparation de la finale, il n'était même pas envisageable d'aller se concentrer. Se déconcentrer.
Ouais, d'aller perdre de l'énergie là-bas.
Oui, certainement. Mais de toute façon, on n'y a même pas pensé. Honnêtement, on regardait ça à la télé, ça nous allait. On avait surtout à vivre notre aventure à nous et de voir la conclure avec une finale qui, effectivement, a eu un coup d'envoi à midi. Et ça, c'était quelque chose d'assez particulier pour nous.
Franck Simon.
Oui, c'est un encadrement 100% camerounais, parce qu'on a évoqué Jean-Paul Akono. Oui. Mmh. Il y avait Martin Tungupile, il y avait Thomas Nkono, il y avait Angelbert Barga. Je voulais savoir, Pat, est-ce que ce que vous avez vécu, ça t'a inspiré? Parce que quelques jours plus tard, vous arrivez pour faire un match international au Stade de France. Après cette médaille d'or, vous venez en France Et c'est là où tu as inscrit un but qui est resté évidemment célèbre partout dans le monde. Une bicyclette contre l'équipe de France, championne du monde et championne d'Europe. Donc ouais, en quoi ça a pu t'inspirer, te motiver toute cette expédition en Australie?
Ça m'a enrichi sportivement bien entendu d'un titre, mais humainement j'ai vécu une aventure particulière. On n'était pas du tout donné comme favori. J'avais moi des petits frères avec moi. J'ai prodigué des conseils. J'ai su à certains moments que j'ai été impactant. C'était important cet enrichissement pour moi. Je m'en sers dans mon quotidien aujourd'hui. Je l'ai gagné des valeurs de non-renoncement, parce que ça a été, on est passé quand même par des moments difficiles. On a marqué les quatre premiers matchs, et les matchs les plus importants, les demi, la finale, on prend les buts. Donc c'était des situations où il fallait réapprendre quelque chose. Donc c'est tout ce mélange qui, pour moi, est quelque chose de particulier. Et ce qui s'est passé 4 jours plus tard au Stade de France vient complètement du hasard et non d'un quelconque boost dû aux Jeux Olympiques. Je vais être franc, le match contre l'équipe de France, championne d'Europe et championne du monde, comme tu l'as rappelé, Franck, est un match auquel je rêvais 6 mois plus tôt. Bon, on savait qu'on allait jouer la France au mois d'octobre. Mais la vérité, c'est que quand j'arrive le 3 octobre sur la pelouse de France pour l'entraînement, j'ai aucune sensation qui m'amène vers ce match. Je suis encore dans mon nuage.
C'est ça.
Donc le geste, je le réussis parce que le ballon arrive là où il arrive. Et
tu le tentes.
C'est un heureux concours de circonstances. Les Jeux Olympiques m'ont enrichi, mais ce n'était pas... c'est un point... Ça m'aidera... Ça me servira toute la vie et ça ne m'a pas spécialement, en tout cas ça ne m'a pas desservi, c'est sûr, mais ça ne m'a pas spécialement servi pour jouer ce match.
Eric, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que en fait, il y a quelques mois avant, il est concentré sur ce match de l'équipe de France et en fait, il ne sait pas qu'il va vivre cette aventure juste avant. Mm-hmm. Et du coup, en fait, il arrive sur ce match qu'il attendait depuis je ne sais pas combien de temps et en fait, il est encore dans la compétition qu'il a. C'est quand même incroyable.
C'est incroyable. Ouais. Ouais. La perspective
surtout,
a totalement changé.
Surtout jouer quasiment chez soi puisque Patrick a grandi en Seine-Saint-Denis, comme moi, et donc voilà, le fait de jouer à Saint-Denis, c'était quelque chose d'assez fort aussi. Jouer contre l'équipe de France quand tu as été formé aussi dans le football français. Donc du coup, ouais, il y avait beaucoup beaucoup d'émotions et tout ce mélange, je trouve, entre le titre olympique et ce match fabuleux que j'ai encore en tête d'ailleurs.
Ouais, alors
moi pour dire la vérité, c'est au moment des hymnes que je réalise que c'est certains matchs amicaux, mais c'est le France-Cameroun dont tu as rêvé depuis petit. Mmh. Tu rêvais de voir les Roger Milla affronter les défenseurs français, ça n'a pas pu se faire. Et personne n'avait tenté d'affronter la France, qui est quand même une colonie dont on se souvient. Donc oui, c'était un match important, mais je l'ai ressenti pendant, je disais, 6-7 mois. Pendant 15 jours, je l'ai occulté, et puis c'est devenu réalité, c'est en tenante quasiment, donc je ne dis pas que c'était un faux match et qu'il n'avait pas d'importance, mais il faut comprendre qu'il était très difficile de descendre de ce nuage-là.
Alors je rappelle le nuage sur lequel vous étiez pendant toute l'année 2000 pour les plus jeunes, Patrick Mboma, champion d'Afrique en février avec le Cameroun, se retourner sous le nez de Desailly au Stade de France, champion olympique avec 4 buts au compteur pour vous à Sydney, et finalement donc vous avez été sacré joueur africain de l'année 2000. Le revers de cette médaille olympique quand même, c'est cette histoire de boycott. On va terminer là-dessus. On a échappé au pire, enfin vous avez échappé au pire, parce que les joueurs camerounais étaient à deux doigts de ne pas jouer cette finale.
C'est complètement vrai. À midi, on jouait. À minuit, donc 12 heures plus tôt, je suis bon en maths, on a on a dit au ministre qu'on n'allait pas jouer, parce qu'on avait des primes qui étaient vraiment rikiki, un manque de considération. Le président de la fédération qui n'était pas revenu comme il avait promis si on jouait la finale, comme quoi il n'y croyait pas vraiment. On a, pour mettre la pression, on a dit qu'on n'allait pas jouer. Le problème, c'est que moi, j'ai dit ça, et quand je suis venu rendre compte à mes coéquipiers, ils me disaient,
ça dit, ça va pas.
On va réellement pas jouer. Alors que moi, je disais ça pour mettre la pression aux dirigeants, quoi.
C'était du bluff.
Et en définitive, on a eu la chance d'avoir de l'argent qui est arrivé dans la nuit. Donc, comme c'était des francs CFA et qu'on était en Australie, j'ai cette boutade que j'utilise depuis 20 ans maintenant, c'est que le Cameroun est le premier pays à faxer de l'argent.
Donc vous avez eu l'argent à quelques heures du match et puis l'or au bout de la finale, l'or olympique. Merci beaucoup Patrick Moma, merci infiniment d'avoir été avec nous pour évoquer ce souvenir qui aura rafraîchi la mémoire des plus anciens et puis appris deux ou trois choses aux plus jeunes. Merci Patrick.
Merci.
Oui, le mercato, il reste encore quelques jours. Alors, il y a eu quelques mouvements ces dernières heures. Et dans les buts du Stade Rennais, on a vu arriver un lion, comme quoi un lion peut en cacher un autre. Après le départ d'Edouard Mendy à Chelsea, Alfred Gomis a signé hier son contrat avec le club breton dont on parlait tout à l'heure à propos de la Ligue des Champions. C'est une recrue qui est payée 16 millions d'euros. D'après les infos qui circulent, beaucoup, ça vous paraît beaucoup ?
Ouais, c'est pas autour.
C'est un peu tout bonus confondu, peut-être.
Ah ouais, c'est peut-être
CFA,
une base.
Peut-être.
Peut-être une base autour de 10 millions d'euros, peut-être avec des bonus. Bah, c'est une super. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Rennes. Alors, un gardien africain en chasse un autre. Peut-être que d'ailleurs, même à Dijon, un autre gardien africain va en chasser un autre, puisque le nom, je pense que vous alliez en parler, de Alakbé, l'international béninois, tourne Saturnin. Tourne du côté de Dijon, je trouve que c'est plutôt aussi une bonne idée. Moi, j'aime beaucoup ce gardien Gomis, enfin Mendy, on pas besoin d'en parler, on sait que c'est un gardien.
On va en parler d'ailleurs.
Bah, ils vont en parler mais juste Gomis, après. Moi Gomis, je l'adore surtout depuis la finale de la CAN contre l'Algérie. Bon, c'est une petite boutade, mais derrière ça, c'est surtout
oui,
un gardien
alors, on rappelle que Gomis est dans les buts en finale de la CAN. Il est perfide.
C'est moche,
j'avais vu. Le Fennec est de retour,
il griffe dingue, ça.
Sur cette
frappe. Je suis pas ici pour faire de cadeaux aujourd'hui. Paillettes à ramasser, il y a aucune raison que Gomis
Alfred Gomis était juste dans les buts des Lions pour cette finale avec la frappe contrée détournée
de
Bounedjah
et
c'est lui qui prend l'unique but de la finale.
Mais c'est surtout un gardien, Franck, qui connaît mieux que moi, qui a un parcours, qui s'est fait un nom en Italie, notamment.
C'est un Italien.
À la SPAL. Moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est alors, je connais pas, je regardais parfois Dijon. Bon, évidemment, on voyait qu'il avait du talent, de la régularité. Ce qui m'impressionne, c'est son envergure. Je trouve un gardien qui dégage une envergure
que Mendy,
incroyable.
Hein. Tu sais qu'il est plus petit que Edouard Mendy.
Putain, on dirait pas.
Ouais, parce qu'il a effectivement cette envergure. Je pense qu'ils sont très proches. Gomis était la doublure de Mendy. Il a pris le relais quand il y a eu la blessure. Il avait été d'ailleurs élu meilleur joueur de la demi-finale contre la Tunisie avec le Sénégal. Et ouais, ce sont des garçons qui se ressemblent énormément, notamment ils sont très bons sur leur ligne. Peut-être qu'Edouard Mendy, il a un petit plus au niveau du jeu aérien. Jeu au pied, Gomis est très bon. Oui, très bon. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes et ils sont très très proches. Il y a une homogénéité, ils travaillent ensemble et c'est aussi pour ça certainement que Rennes est allé le chercher, puisque quelque part c'est comme s'il y avait un copier-coller quoi. On perd un joueur important et on gagne un joueur de la même valeur sportive.
Puis Rennes qui travaille plutôt bien ces derniers temps en termes de recrutement. Vous savez, en Ligue 1, il y avait d'autres gardiens qui auraient pu Rajkovic du côté Benitez du côté de Nice également, qui auraient pu très bien être des gardiens qui auraient pu être sollicités aussi.
Ouais. Vous les voyez très proches. Il y a quand même un écart entre Mendy et Gomis, Franck, pour vous.
Je pense que Edouard Mendy est
en avance.
Est en avance.
Ils ont quasiment le même âge. Hein. Oui. Ils ont une année d'écart.
Oui, voilà, 28 ans pour Edouard Mendy et 27 pour Gomis.
Alfred.
Pour Alfred Gomis, c'est vrai parce que il y a aussi ces deux frères qui sont ces deux jeunes frères qui sont gardiens. Mais moi, je les sens très très proches, avec en plus un parcours très accidenté pour Edouard Mendy. Voilà, depuis ses débuts.
Il a connu le chômage.
Ouais. Doublure en réserve à l'Olympique de Marseille. Mm-hmm. Il vient à Reims où il casse la baraque. Reims l'a vendu la saison dernière à Rennes avec les résultats que l'on sait. Vraiment un gardien d'envergure, de charismatique, je trouve. Une belle personnalité. Et je trouve que Gomis lui ressemble. Il y a pas grand chose. Hein. Je pense qu'à Liu Cissé, que ça soit Gomis ou que ça soit Mendy, le sélectionneur des Lions de la Teranga, il est très heureux.
C'est un rêve d'avoir deux gardiens de ce niveau.
Le Cameroun a connu ça à l'époque avec ils en avaient même trois: Joseph Antoine Bell, Thomas Nkono, et il y avait même le jeune Jacques Songo. Donc quand vous avez trois gardiens de taille, de stature internationale, c'est exceptionnel. Là, le Sénégal, il y en a au moins deux. Et du coup, c'est vrai que c'est un plus.
Ça reste par cycle quand même en général. Hein. Oui. Ça t'arrive pas.
Ouais, mais il y a une école de gardiens. Le Sénégal travaille aussi. Le Cameroun a toujours travaillé depuis 50 ans, 40-50 ans sur le poste de gardien, mais le Sénégal travaille aussi beaucoup. Donc voilà.
Et ils vont tous les deux continuer à progresser, bien évidemment, parce que il y a toutes les chances que Gomis se frotte à la Ligue des Champions. Il va y apprendre beaucoup de choses. Edouard Mendy lui a fait ses débuts avec Chelsea hier soir.
Ouais.
Pas mal. 8e de finale de Coupe de la Ligue, ça c'était le contexte. Une défaite au bout contre Tottenham au tir au but. Ouais. On va écouter l'entraîneur d'Edouard Mendy nous dire quelques mots de la première sortie officielle avec le maillot des Blues d'Edouard Mendy.
Je pense que Mendy a été très bon. Il a effectué quelques bons arrêts, dont un auquel je repense en particulier. Il est même venu dans le jeu saisir quelques ballons. Il a fait une tentative aussi, sans pouvoir s'en saisir. Le fait d'avoir un comportement positif n'est pas une mauvaise chose. Je suis très satisfait de chaque compartiment de son jeu.
Il a été bon pour vous ?
Pour une première sortie.
Et puis l'arbitrage l'aide pas, il prend un but qui me paraît quand même un petit peu hors jeu.
Le
but de Tottenham, mais il a fait un gros match. Après sur la séance de tir au but, il en touche pas. Hein. Il n'est pas inspiré sur cette séance.
Après la question pour Mendy, c'est à savoir est-ce qu'il on a vu ça au Paris Saint-Germain ou dans d'autres clubs. Parce qu'aujourd'hui, il y a un 1 et un bis. Est-ce qu'ils vont lui laisser Kepa dans les pattes ou pas? Parce que c'est un poste où il va y avoir, là, aujourd'hui, une médiatisation. Ouais. C'est-à-dire que le moindre geste, moindre boulette, mini-boulette, va être épié, va être décortiqué et va prendre une importance qu'elle ne mérite pas. En sachant que vous avez quand même un gardien qui est numéro 2 aujourd'hui, au fond, un bis, Kepa, parce que Mendy l'ont pris pour être numéro 1 a priori, qui a été quand même payé 80 millions d'euros par Chelsea, qui va dormir sur le banc. Donc c'est aussi
il n'a pas assuré.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Franck,
c'est la concurrence.
C'est quand même pas une situation simple non plus pour Mendy, parce que il suffit qu'il fasse deux mauvais matchs, on va pas le laisser s'installer et ça va repointer avec l'option Kepa. Donc c'est aussi ça, des fois ils vont avoir une hiérarchie des gardiens qui soit très claire.
Bah en fait c'est très déstabilisant en fait. Comme tu disais, tu l'as vu à Paris, mais quand tu n'es pas numéro 1 désigné complètement, c'est très dur en fait tu sens la pression tout le temps et c'est difficile de s'imposer en étant serein dans ces conditions-là.
Tu peux pas jouer tout et Eric en même temps, tu peux pas être titulaire tous les matchs. C'est un poste
je suis d'accord
où il faut
toi,
que les gars récupèrent.
Mais ça ne enlève rien à la hiérarchie
en
fait.
Non, il y a une hiérarchie. Vous avez raison tous les deux. Il faut une hiérarchie claire. Après, c'est bien aussi que le numéro 2 ait du temps de jeu dans les coupes, éventuellement nous en.
Ça, c'est sûr.
Enfin, le numéro 2, il a été acheté 80 millions d'euros. À mon avis, il doit avoir déjà bien mauvaise. Qu'on aille lui chercher un gardien, on lui fait passer sous le nez. Je pense qu'il n'avait pas cette perspective de carrière qui est pas. Et ça peut devenir un problème de vestiaire pour Frank Lampard.
Bon, on va voir. En tout cas.
Il reste 5 jours.
Edouard Mendy, il a été tout de suite en situation puisqu'il se retrouve dans une séance de tir au but en vedette face au gardien des champions du monde Hugo Lloris comme entrée en matière, c'est assez costaud quoi.
Ouais, moi je l'ai trouvé sobre comme à son habitude, très bon sur sa ligne, présent dans le jeu au pied, rappelle Manuel Neuer. Effectivement, c'est un gardien qui anticipe beaucoup les coups, qui est assez haut sur le terrain. Maintenant, il faut effectivement qu'il puisse aligner des matchs et des perfs, mais c'est quelqu'un qui a la tête froide et je suis pas inquiet pour lui.
Allez, on va terminer sur ces listes de sélections africaines qui sont en train de tomber là ces jours-ci en prévision des matchs amicaux qui attendent les sélections en octobre et notamment le Mali hein, avec le cas on peut dire le cas, Adama Traoré. Puisque cet homme-là, Adama Traoré, alors si vous ne le visualisez pas, on va vous le tout de suite vous rappeler qu'il s'agit du très musculeux et très épais attaquant de Wolverhampton. Il est appelé dans la pré-liste de l'Espagne pour jouer contre la Suisse et l'Ukraine en Ligue des Nations. Il est aussi appelé en équipe du Mali pour affronter en amical le Ghana et l'Iran au début du mois prochain. Et qu'est-ce qui se passe, Franck Simon? Quel est le parce qu'il a déjà été appelé, il faut tout de suite le préciser, par l'Espagne, et il n'a pas joué parce que soit il était blessé, soit il y a eu coronavirus. Alors, vous souriez.
Ouais, je souris parce que la première fois quand il est pas venu l'an dernier, la blessure me paraît être un petit peu diplomatique. Ah. Alors on a appelé quelqu'un qui est proche du dossier, que tout le monde connaît, qui est Fousseni Diawara, qui travaille auprès de Mohamed Magasouba,
adjoint.
Voilà, qui est adjoint du sélectionneur du Mali. Effectivement, ils ont envie de le récupérer, tout simplement parce qu'il a toujours pas joué finalement avec l'Espagne A. Il a joué dans les catégories de jeunes, il est de culture espagnole, mais il a, quand vous allez consulter ses réseaux sociaux, vous apercevez qu'il y a quand même le petit drapeau du Mali près du drapeau espagnol, ce qui signifie qu'il a le Mali chevillé au corps et au cœur. Et donc, ils se sont dit avec Mohamed Magasouba, on va l'appeler, on va lui demander, puisqu'il n'a pas joué la dernière fois pour la Ligue des Nations pour Covid, on tente notre chance, il y a pas de raison. Et visiblement, ils ont aussi approché le papa d'Adama Traoré Diarra. Vous savez qu'il y a d'autres Adama Traoré en équipe du Mali.
Oui.
Et donc, ils ont approché le papa qui a fait savoir à son rejeton que, écoute, ça serait pas mal finalement que tu rejoignes les Aigles. Voilà ce que j'en pense. Il a donné son opinion de papa. Donc, l'embrouille. Il n'y a pas vraiment d'embrouille. Il faut juste qu'il fasse son choix et que ça soit clair. Mais il y a eu une approche déjà du Mali à laquelle avait répondu l'Espagne, en fait. Les premiers à s'être manifestés, ce sont les Maliens. Mm-hmm. Voilà.
Je crains que la pièce retombe du côté
espagnol,
parce qu'après, il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte, malheureusement, c'est le foot business. Il est à Wolverhampton. En tant qu'international espagnol, il a plus de chances de faire un gros transfert derrière dans un top club, même si aujourd'hui on recrute des Africains de très haut niveau, que ça soit à Liverpool, mais le cachet label espagnol, ça compte, et ça compte aussi dans le statut qu'on va vous donner. Après, dans le jeu en soi, c'est un profil qui est alternatif et qui est différent de ce qu'a aujourd'hui l'Espagne. Est-ce qu'il est assez bon techniquement pour du jeu en combinaison? C'est plus un joueur de profondeur, de transition et même de déséquilibre dans les 30 derniers mètres. Donc pour l'Espagne, c'est une chance parce que c'est un profil qui est assez différent. Mais est-ce qu'en même temps, il peut, même s'il a été, il est passé par l'Espagne, est-ce qu'il peut dans ce jeu de possession avoir une vraie place de titulaire? Je me pose la question.
En tout cas, il est culture espagnole, toi, Eric. Donc pour moi, je me dis, ce garçon, il est pas perdu totalement, même si son cœur peut aller de l'autre côté. Et puis voilà, c'était aussi d'abord à Robert Moreno de faire le forcing, puis maintenant à Luis Enrique. S'il n'arrive pas à l'avoir, à un moment donné, il va aller là où on veut de lui. Ça n'empêchera pas de jouer.
S'il n'y avait pas eu le coronavirus, il avait rejoint l'Espagne, j'allais
dire. Oui.
Ouais, mais voilà, c'est une chance
de plus. Après, pour lui, je pense que c'est quand même mieux d'aller jouer avec le Mali que d'aller jouer avec l'Espagne, même si
c'est bien pour sûr faire deux coups dans un coin.
C'est ça. Là, si c'est juste pour être pris par l'Espagne pour pas qu'il aille avec le Mali, je trouve ça complètement.
Vous pensez qu'il y a un risque un passage?
Ça arrive souvent quand même. Je dis pas que c'est le cas, mais ça arrive souvent quand même.
Il sera leader avec les Aigles du Mali. Il sera très aimé, c'est sûr. Et le public l'aime déjà beaucoup là-bas, donc ça serait un coup formidable pour les Aigles.
Oui.
On va être vite fixé en tout cas.
Ouais. Bah écoutez, on a alors
bien
ça
c'est en Turquie.
On parle de pré-liste. Hein.
Ouais.
Donc pour le moment, Luis Enrique doit publier la liste définitive pour les matchs dont on parlait tout à l'heure vendredi. Donc on verra déjà si Adama Traoré sera dans cette liste finale. Et puis on suivra évidemment attentivement le choix, puisque c'est de ça qu'il s'agit, d'Adama Traoré. Voilà, c'est la fin de ce Radio Foot. On va remercier Nabil Djellit, Franck Simon, Eric Rabé, Sandra Tana. Il y a eu du monde dans cette émission. On a eu Patrick Beaumain en direct. On a parlé de Didier Drogba. Que des stars. Et on en reparle demain de tout ça avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. Rendez-vous dans un peu moins de 24 heures. À bientôt.